carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Vladimir Velikovitch, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans le cadre de la 4e édition du Salon du dessin contemporain qui se déroule à Paris du 25 au 28 mars 2010 au Carrousel du Louvre qui rassemble pour cette occasion 67 galeries internationales. Alors l'événement est quand même rare, mérite d'être souligné. C'est la seule foire européenne exclusivement consacrée au dessin. Et chaque année, là, elle prend un petit peu plus d'importance. Le Salon du dessin contemporain invite à découvrir des œuvres de toutes formes graphiques, modernes et contemporaines, de 1950 jusqu'à nos jours. Du street art à la bande dessinée, au design, au dessin d'architecte, avec des artistes à la fois très reconnus et d'autres émergents. Alors, un petit bonus très appréciable dans le salon, un événement dans l'événement, une exposition, une petite exposition consacrée à des carnets de dessin sur les lieux mêmes du salon, un moyen de plonger à la source de la création des 40 artistes qui ont prêté leurs carnets. C'est un petit peu une part de leur laboratoire qui est ici révélée. Vladimir Velikovitch, nous sommes sur le stand de la galerie Samantha Selem, qui vous représente et vous accompagne depuis 2006. Sous nos yeux aujourd'hui, à peu près une cinquantaine d'œuvres sur papier et carton exposées, essentiellement des dessins récents, titre de ce one-man show que vous dédie Samantha Selem et que le public aura la chance de retrouver quand le salon fermera ses portes à la Galerie Selem, rue Jacques Callot à Paris. Un nom, j'imagine, familier pour vous, Vladimir Velikovitch. Jacques Callot, oui. Ça évoque...
Effectivement, Jacques Callot, c'est surtout un dessinateur, un graveur que j'aime beaucoup, qui est dans mes tablettes, entre autres Leonardo, Michel-Ange, Dürer, Goya. J'ai mon petit choix là dans des valeurs historiques, ce qui n'est pas très compliqué. Mais Jacques Callot, avec ses images, avec ses gravures concernant la guerre, les pauvres, les vagabonds, ça, avec ce dessin qui est d'une précision absolument inouïe, on peut le comparer à Dürer aussi, et qui est quand même relativement peu connu par rapport aux autres que j'ai cités, mais c'est quelqu'un sur lequel je peux quand même appuyer fortement.
Alors pourriez-vous vous passer du dessin, Vladimir Velikovitch ?
Je ne peux pas me passer du dessin. Dans le titre de l'interview que j'ai fait dans le catalogue, qui est publié dans le catalogue avec Henri-François Desbailleux, le titre est une phrase qu'on a extraite de l'interview et ça dit que on peut m'empêcher à peindre, mais m'empêcher de dessiner serait une punition mortelle pour moi. C'est-à-dire... Ce n'est pas une déclaration fracassante, ce n'est pas une phrase que je dis comme ça superficiellement, c'est réellement la vérité parce que le dessin c'est ma vie et le dessin c'est quelque chose de l'essentiel dans tout ce que je fais.
Quelle différence faites-vous entre vos dessins et vos peintures justement ?
Ma peinture n'existerait pas sans dessin. C'est-à-dire le processus même du travail sur une toile, sur la peinture, ça débute par justement le dessin. Mais c'est un dessin qui est un peu différent, c'est un dessin qui ne rentre pas dans les détails comme quand je dessine sur papier. Et c'est un dessin de la mise en place, de l'organisation, de la composition. Et c'est une manière dont je procède pour finalement composer mon image. Et après, je passe à la matière, à la peinture, et je couvre plus ou moins, mais je couvre la surface. Mais des fois, il y a le dessin exactement fait au trait, au pinceau, avec la couleur, mais qui apparaît. Et puis, c'est une présence du dessin qui est aussi dans une sorte d'accompagnement de la peinture même. C'est-à-dire, le dessin fait partie de tableaux qui se composent, disons, avec des parties qui sont peintes. Et puis, il y a une petite note du dessin qui reste en accompagnement.
Est-ce que ça vous apporte une liberté supplémentaire, le dessin ?
Il y a une possibilité de le faire partout, n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire n'importe comment, il y a toujours un contrôle qui est exigé pour que ça soit quand même un travail pas gratuit, pas quelque chose qui est superficiel et tout ça. C'est-à-dire le dessin, il est dans tous les cas quelque chose qui est la base de tout mon travail. Et on peut le pratiquer dans tous les états sauf en dormant.
C'est quotidien pour vous ?
C'est quotidien pour moi. Je dis toujours que je suis très très désorganisé dans mon travail. Et en rentrant dans l'atelier, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Est-ce que c'est la suite d'une peinture que j'ai commencée la veille, d'une peinture qui est en cours et qui peut rester là pendant beaucoup de temps ? Où je m'arrête sur un papier, sur un dessin. Il y a différentes sortes de dessins, c'est-à-dire ça varie entre la note rapide, juste une marque de quelque chose que j'ai dans la tête ou que je vois.
Vous tenez des carnets ?
Oui, j'aurais pu participer dans cette histoire des carnets, mais les carnets me servent, je les déchire. C'est-à-dire, je dessine sur ces carnets à spirale, là, et puis je me sers de ces dessins pour ne pas trimballer le carnet entier, parce que ce sont des carnets qui sont assez grands, 30 cm par 30, avec, je ne sais pas, des centaines de pages. Moi, je déchire le dessin, c'est-à-dire, il fallait que je récompose, je l'introduis dans la spirale, là, mais bon, ce n'est pas un vrai carnet. Ce n'est pas un vrai carnet, mais... Je l'ai fait et puis je l'ai fait systématiquement parce que c'est une activité presque quotidienne. Surtout si je pratique ce genre de dessin quand je m'éloigne de l'atelier, disons je suis ailleurs, en vacances, tout ça, et puis je note tout et n'importe quoi. Et puis quand je suis en panne, si on peut dire entre guillemets d'inspiration, je ne crois pas à l'inspiration, mais bon. Bah, je ramasse toutes sortes de choses autour de moi, les feuilles mortes, les fruits secs, les branches, les... Je dessine ce que je vois autour de moi.
Avec ce que vous avez sous la main, vous avez
bic, oui. Je dessine au bic et j'ai une habitude et j'ai une pratique du bic. Je sais qu'est-ce que je peux en sortir d'un bic. Oui. Bon, ce n'est pas le dessin à la plume ou pinceau.
On va en reparler.
Voilà, c'est une autre. Mais c'est une pratique vraiment nécessaire pour moi.
Vous évoquiez tout à l'heure plusieurs types de dessins. Donc, je vous ai interrompu parce que vous parliez de la note du dessin.
Ouais. Le dessin a plusieurs sortes de dessins. Il y a ce dessin qui a la note rapide, tout à fait nonchalante, si on peut dire. Parce que si on s'approche vers quelque chose qui a une autre prétention, une autre ambition, un autre objectif, qui est un dessin sur un autre papier, parce que le papier, c'est très, très, très important. Pas dire que c'est la moitié du dessin, mais c'est quand même un cinquième du dessin, parce que j'utilise un papier qui a un grain fin, qui a la possibilité, quand on dessine, qu'il y a une sorte de matière qui se crée par le biais du papier. Moi, je dessine jamais sur un papier lisse. J'ai besoin que le dessin rencontre une certaine résistance sur le papier. Là, c'est la peinture, c'est la même chose. Je travaille sur les toiles qui sont avec un très, très important grain.
Oui.
Et ça me permet de jouer avec la matière. Et là,
on le voit très bien d'ailleurs dans votre exposition. Là, sur le stand, il y a des parties de dessin qui sont déchirées.
Oui.
Et on voit le grain, l'épaisseur du grain.
Oui, oui. Les déchirures sont une autre... On en parlera probablement. Mais je vous dis, il y a plusieurs niveaux du dessin et qui est une manière de le pousser vers quelque chose de plus important, plus ambitieux, avec un statut d'une œuvre indépendante.
Vous faites des grands formats.
Oui.
Et là, sont exposés à la fois des dessins récents, on n'en a pas, évoqué, de 2009-2010. Et puis, Samantha Selem a choisi d'exposer quand même 4 dessins de 2005 de la série des Grunewald.
Des Grunewald. Non, mais pour revenir un peu à ces différents stades du dessin, on parlait de cette note rapide, sans trop de prétention. Après, il y a des dessins sur ce beau papier qui est quand même quelque chose d'important. Et en arrivant aussi par l'augmentation de la taille du dessin, je suis arrivé quand même à des tailles de dessin qui correspondent au tableau.
C'est-à-dire
des grands formats.
De 2 mètres.
Oui, il y a deux dessins de 2,25 m par 165 m. Et c'est une partie des formats que j'utilise pour les tableaux.
Ouais.
Bon, dans les tableaux, je pars aussi dans des dimensions un peu exorbitantes, 3 mètres sur 5 et tout ça. Mais ça, c'est... on peut faire du dessin par-dessus aussi. J'ai fait pour un ami un dessin qui fait 4 mètres et demi sur 2 mètres.
Oula.
Oui. C'est très amusant. C'est un réel plaisir de dessiner. La peinture, c'est une autre chose. C'est une autre chose, mais il y a ce côté, je parle toujours de ce côté responsabilité par rapport à un dessin. On doit encore, avec mon expérience, il faut rester très concentré. La peinture, on peut repasser les coups de pinceau, les gestes et tout ça. Le dessin, c'est tracé. C'est-à-dire, il y a ce que je soigne avant tout, c'est le trait.
Alors, quelle est votre définition du trait ?
Le trait, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est à quel point j'ai respecté ce trait. C'est que mes premiers dessins qui étaient... plus ou moins en fonction de ce que je voyais dans des livres, dans des monographies. C'est par instinct, par je ne sais pas quel réflexe, mais ce n'est pas par hasard que j'ai opté tout de suite pour une rigueur qui est propre à Dürer, par exemple, qui est propre à Goya. Bon, à Leonardo, c'est quand même absolument superbe. Ça, c'est, on ne peut pas passer plus loin de ce qui a été dit par lui et quelques autres, oui. Mais le trait, c'est... on peut communiquer par le trait tout. Et je parle de cette histoire de responsabilité. C'est une domination par le biais de la plume, de l'encre. Une preuve à soi-même qu'on est capable de sortir quelque chose avec ces mêmes traits. C'est-à-dire, ça je répète, c'est un réel plaisir.
Un réel plaisir. Vous avez choisi l'encre aussi ?
L'encre, oui.
Essentiellement,
l'encre noire, oui.
L'encre noire, peut-être dans cet exercice de la rigueur, on peut,
oui,
on revient pas dessus.
Je pense que c'est normal, c'est logique, c'est compréhensible. Et cette arme,
ouais,
qui est la plume, qui est une arme pointue, c'est pas un fusain qu'on écrase, qu'on étale à la main. Je dis rien contre les gens qui dessinent au fusain. Mais déjà, la possibilité de gommer, d'effacer, ça me paraît... quelque chose qui, pas nuire, mais quelque chose qui n'est pas suffisamment dominé par une sorte de métier. Il faut quand même bien dire qu'il y a des merveilleux dessinateurs au fusain ou au crayon, on parle d'Ingres, on parle de Picasso, on parle de David Hockney, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont... Moi, je me suis un peu trahi dans cette explication-là parce que j'ai fait toute une série des dessins, des papiers, sur le thème de la crucifixion de Grunewald.
Oui.
Et là, j'ai choisi juste le torse, là, où je considère que ce torse-là est tellement expressif, est tellement douloureux, avec cette illustration de la souffrance, de la terreur, de la violence. Et j'ai fait une assez grande série des papiers en essayant de traiter ce torse à différentes manières. Et je me suis lancé aussi pour... peut-être prouver à moi-même, un peu étant tout à fait prétentieux, que je peux aussi dessiner au crayon et que je peux aussi dessiner au fusain. Mais bon, c'est juste 2-3 tentatives et c'était dans le cadre de cette série.
Vous mélangez les techniques dans vos dessins, là, dans les dessins qui sont présentés. Il y a à la fois des encres, mais il y a aussi des encres et collages,
ouais,
des encres et peintures acryliques, y compris dans cette série de 2005, là,
des
Grunewald que vous évoquiez. Il y a quelque chose de touchant parce que même dans le collage, cette vieille reproduction du Christ, le spectateur peut se demander est-ce que c'est là-dessus que Velikovic a appris à dessiner ? Est-ce que c'est ce morceau-là qui est là ou est-ce que c'est un autre ?
Oui, non,
c'est du détail.
Oui, c'est un peu tardivement, mais...
Il y a une très belle harmonie aussi entre tous ces différents usages, dans la composition, dans l'espace. Et...
Oh, oui.
Comment vous agencez tout ça ? Par quelle magie ?
Cette histoire de cette pratique du collage, c'est quelque chose qui est en parallèle, bien sûr,
oui,
avec le dessin. Il y a des collages qui sont en gros sur le carton, c'est-à-dire c'est une matière
toute une série
qui m'a...
carton,
ouais, toute une série
avec très beaux ouvrages qui sont consacrés.
Il y a un livre sur cette activité-là, Et j'aime bien ce support que je ramasse à gauche, à droite. Quand on me livre des tableaux qui sont couverts, je les découpe. Et cette matière est assez gratifiante parce qu'on peut la manier aussi en dessinant sur ce même carton, en collant des bouts de dessins, parce que souvent, je déchire mes dessins.
Alors, ce sont les dessins dont vous parliez tout à l'heure, que vous réutilisez là
ou... Non, c'est pas, c'est les dessins quand je ne suis pas content d'un dessin qui est, je vous dis, il y a cette taille-là qui est quand même quelque chose de plus ambitieux. Une activité égale à la peinture. Hein. C'est ça,
vous,
ça, je ne fais pas la différence. Mais bon, ça ne réussit pas toujours. Mais il y a quand même un bout de ce même dessin qui me satisfait. Et là, je le déchire, je jette, et puis il y a ces bouts-là qui traînent et que j'utilise au fur et à mesure quand ça se présente comme possibilité de l'inclure sur une surface. Et bon, ben, je colle autour, j'utilise pas mal de photos, des références qui sont des références autant sur, par exemple, que j'utilise beaucoup les images, les photos de Maybridge que j'ai exploité pas mal.
De cet homme qui est du mouvement qui est décomposé réutilisez.
Et puis je retourne un peu dans le passé avec les planches anatomiques de Vézal. Bon, je combine ça. Et ça, c'est une activité qui est très agréable, moins responsable, parce qu'on a des surprises, on a des situations où on intervient qu'elle n'était pas prévue. C'est-à-dire, ça, c'est une grande liberté de fonctionnement.
Il y a une petite phrase que je trouve très, très belle, justement, dans le catalogue de cette exposition des dessins récents. Vous dites que prouver que le dessin est avant tout portrait de soi-même, qu'il est capable de montrer énormément et de cacher très peu.
Ouais.
Évidemment, ça dit tout. C'est une phrase, un très beau texte sur le dessin que vous avez écrit, qui est dans ce catalogue. Un texte qui date de 1983, mais il est tellement ciselé, j'allais dire, que même si on est en 2010, je comprends que vous n'en ayez pas fait d'autres. Parce qu'il est...
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit.
Ouais.
J'étais très bon en écrit au lycée. Mais bon, ça c'est une autre période, une autre époque. Mais j'ai écrit ce texte au moment où j'étais nommé à l'École des Beaux-Arts pour diriger en 83
un atelier de dessin. Justement.
Ça existait à l'époque encore.
Ouais.
Et j'ai hérité d'un professeur qui est parti à la retraite. Et bon, comme une sorte de présentation d'appréciation du dessin, j'ai écrit ce texte et... Comme c'était une occasion, une opportunité de parler du dessin, comme ça, au dernier moment, j'ai trouvé ce texte-là et je l'ai mis là, parce qu'il n'a pas vieilli beaucoup. Hein.
Non,
j'ai pas changé.
Pas du tout. Vous évoquiez tout à l'heure le grain de votre papier et l'usage de la plume que vous faisiez.
Ouais, ouais.
Vous parlez d'attaque sonore. C'est un rapport à la matière qu'on...
qui semble plus fort
chez vous.
Oui, c'est très important parce que, on me considère comme quelqu'un qui fait des images violentes, agressives, et tout ça. Mais il faut que ça fasse un tout. C'est-à-dire, ce que je suis est tel que je suis. Je ne pourrais pas probablement produire quelque chose qui est une manière molle de m'exprimer. C'était toujours comme ça.
Vous avez graissé un peu le papier.
Et c'est une sorte, effectivement, de l'agressivité exprimée par rapport à ce papier-là. Et puis l'image qui vient, elle est... quand même le résultat de cette agressivité par la plume, par cette incision qui est, comme vous dites, elle est sonore. Et puis là, je me suis rendu compte de cette sonorité. Bon, je l'ai constaté, mais c'était très joliment, efficacement montré dans un film récent qui a été fait par Jean-Michel Meurice sur moi. Et j'ai dessiné devant la caméra.
Ce
que j'aime pas, c'est je déteste ça, peindre devant les caméras et dessiner. Mais ces réalisateurs, ils aiment toujours ça parce que, soi-disant, le public aime. On se soumet.
Le geste créateur.
Là, on joue.
Bien sûr.
Et puis, il a capté ce bruit de ce grincement de dessin. C'était assez efficace.
Quand on voit vos dessins, ils sont très chargés. Il y a peu d'espace blanc, ce ne sont pas des dessins transparents. Vous avez une peinture où il peut y avoir peu de choses. Tandis que dans le dessin, on a l'impression qu'il y a une explosion des corps qui arrive, qui frappe la rétine. C'est quelque chose de plus direct dans l'impact. Non pas que la peinture soit moins forte, mais elle est moins chargée au sens...
C'est-à-dire...
Le dessin envahit toute la feuille, tout le support.
Oui, ça,
la peinture aussi.
Ça prouve ce plaisir là, de
mais
dessiner,
de remplir. On sent une projection.
Ouais, de remplir et puis c'est réellement composé par différents éléments. Vous avez constaté, il y a un peu de tout, il y a du corps surtout, il y a...
C'est son vœu thème.
Mon bestiaire à moi,
habituel.
Qui centre les corbeaux, les chiens, les rats. Et le rat, c'est drôle parce que cette histoire des rats, j'ai lu l'autre jour une information à Paris.
Les
Vous
rats
avez
envahissent Paris.
4 rats par personne dans les quartiers plus ou moins chics et 8 rats pour les quartiers défavorisés par personne. Bon, ça veut dire que c'est un compagnon qu'on ne voit pas beaucoup, mais il est là en train d'attendre son moment d'action.
Et il nous ressemble un peu dit-on l'animal
Vous savez,
qui...
l'animal, je ne l'ai pas choisi ni par amour, mais je ne l'ai surtout pas choisi par hasard. Parce que dans les études de Conrad Lorenz, qui a fait des grandes études sur le comportement des animaux, le rat, il est, à part qu'il est intelligent et agressif et violent, il est organisé comme nous. Il y a des hiérarchies, il y a le chef, il y a le sous-chef, il y a les autres, et extrêmement proche de notre race à nous.
Je ne sais plus si c'est dans un texte de Michel Onfray qui vous est consacré ou dans un autre texte du catalogue. C'est le seul animal capable de manger ses semblables.
Ah oui, parce qu'ils sont, quand ils sont en manque de nourriture, ils se mangent entre eux. D'ailleurs, comme nous, si on se trouve dans des occasions, vous avez eu des cas du cannibalisme. Quelque part dans le monde, ça existe toujours, mais il y avait parmi nos semblables des cas de cannibalisme.
Dans les dessins présentés, dans les dessins récents, il y a un grand dessin avec des plantes. Il y en a quelques-uns. Alors, c'est étonnant parce qu'on n'est pas habitué à découvrir cette thématique végétale.
Ouais.
Pourtant, on reconnaît bien votre trait, justement, dans les tiges de ces végétaux.
Ouais.
Et puis, on en retrouve des morceaux, on va dire, dans les autres dessins, entre guillemets, plus classiques de Velikovic, sur les corps et les corbeaux.
Non, mais ça, c'est un peu le travail dans cet état-là, oui. Mais dans les états du dessin précédent, ce que j'appelle les notes, les croquis, les impressions comme ça, et quand on a parlé de... Ce manque d'imagination que je ramasse un peu n'importe quoi que je trouve sous la main. Et ça a donné une série de dessins, des croquis, qui sont liés à des plantes, pas n'importe quelle plante.
Non,
c'est pas les roses, c'est pas les marguerites, c'est plutôt les chardons, ça pique et tout ça. Comme mes oiseaux dans mon bestiaire.
Ce sont pas des petits moineaux ou des perruches.
C'est des oiseaux à bec.
Rapaces.
Oui, rapaces. Et tout d'un coup, je me suis dit que je peux les réunir, ces notes, sur ce thème-là, sur une feuille... À part entière, j'en ai fait deux. Et ça, c'est le dernier deux dessins que j'ai fait avant cette exposition. Je ne sais pas si je veux continuer, mais c'est très libre. C'est une possibilité de construire des formes, des événements à l'intérieur d'un dessin qui est complètement dégagé de tout respect précis, parce que bon, quand on dessine une jambe ou une tête ou quelque chose, il y a des impératifs là. Mais là, on peut interpréter, on peut partir de quelque chose de très précis et puis repartir sur la construction en fonction de... Ce sont des plantes qui sont... Les deux dessins, c'est complètement inventé. Ça ressemble un peu à une feuille, ça fait quelque chose. Mais ça donne une possibilité de grande, grande liberté à l'intérieur d'une forme qui, au départ, elle est soi-disant précise, mais qu'on peut transformer, qu'on peut construire à l'infini presque avec des éléments qui sont des éléments graphiques. Bon, on tient quand même compte que ça doit représenter quelque chose. J'ai presque... un projet dans la tête, quand j'ai constaté quel plaisir ça me procure de faire ce genre de dessin, de faire comme ça un grand grand comme les deux autres, avec
ah oui, c'est de
que
deux
ça.
Mètres sur un, ouais. Un mètre ouais, 60, ouais, là, un grand format.
Oui, un grand format. J'ai ça dans la tête, si j'arrive à le faire un jour. Mais c'est long, hein, c'est long le dessin. Les grands dessins sont assez longs à faire parce qu'il y a quand même une construction qui au départ, je parle des grands dessins, qui au départ, elle débute avec une forme, notamment le corps, et puis après, ça se construit autour en fonction des différents plans que je sais, parce qu'il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de perspective, mais il y a des, quand même, c'est un espace qui joue avec la taille des éléments qui sont sur le dessin.
Si on prend l'exemple de ce grand dessin-là, qui est une encre sur papier, qui fait plus de 2 mètres sur 1,65 m, qui s'appelle « Corps et corbeau », parce qu'on la mettra en photo sur le visuel de l'émission. Là, il n'y a dans ce dessin que de l'encre. Mais vous avez...
Oui.
Donc on est dans le noir et blanc, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de force, et un dessin extrêmement...
Oui, ça c'est l'encre. Bon, des fois, il y a des interventions qui sont avec une autre, disons, encre rouge, parce que l'autre dessin, il y a un petit détail qui est rouge. Il y a d'autres dessins qui ont une partie acrylique. Mais bon, là complètement,
par exemple, pour celui-là,
ça,
vous êtes parti comment?
Oui, ça c'est...
Comment
je suis parti, si vous avez regardé attentivement, ce personnage de la crucifixion, dans les deux dessins, il est présent.
Ouais.
C'est-à-dire, j'ai juste renversé la position.
Le corps.
Non, il est différent parce que je ne peux pas produire un dessin qui est à l'identique, mais il se ressemble. Et puis là, après, il y a cette sorte de construction. Si je dois quand même vous faire un itinéraire à travers ce dessin, bon, ça c'est parti par ce personnage-là. Il y a l'autre qui est d'une taille importante qui est venu après. Les deux, trois corbeaux qui sont là, qui ont quand même fait une sorte de chapeau, si on peut dire, dans cet espace
supérieur
du papier. Et après, il y avait toute cette sorte d'itinéraire à l'intérieur, c'est-à-dire c'est par la taille des personnages. Au moins, j'imagine que c'est dans l'espace, ce sont des choses qui sont plus petites. Et en tout, ça représente une sorte de labyrinthe dans lequel on peut rentrer ou pas rentrer. C'est-à-dire que ça dépend des envies et du contact qu'on a avec une image. Je dis toujours, ce dialogue avec l'image, il peut être positif. On s'intéresse, on rentre, on regarde. Par ce genre de dessin, on ne peut pas, et même moi, je ne vois pas toujours tout. Il y a des fois que j'ai dessiné quelque chose, que je découvre. Et bon, ce dialogue, il peut être aussi inexistant, c'est-à-dire on refuse l'image. Mais les deux sont intéressants. Et ce que je souligne toujours, c'est la chose qui me blesserait, c'est une sorte d'indifférence.
Ici, quand on s'approche, même le papier est travaillé.
Même le papier est travaillé. Et là, bon, il y a une...
Et le soir du vernissage, je ne l'ai pas remarqué. C'est aujourd'hui, en revenant, il y a moins de monde... que j'ai pu m'approcher et, ouais. Et que je l'ai vraiment
Là, il y a deux raisons pour... je pense que vous avez vu une sorte de présence, on peut dire ça, du collage. C'est-à-dire ce papier que j'utilise, dont je suis un peu esclave, s'il s'arrête à le produire, alors là, je serais bien embêté. Et il n'existe pas dans ce format-là. Et là, je fais une sorte de marouflage des feuilles et qui produisent une sorte d'orthogonalité par rapport à la surface. J'aime pas ça. Et j'essaye, avec des interventions qui sont des déchirures du papier, de les masquer et de les éviter. C'est-à-dire, à l'intérieur du dessin, il y a pas mal de choses qui sont un peu en fonction de ces éléments qui sont dessinés, avec cette idée de masquer cette orthogonalité. Et puis, il y a d'autre part, c'est humain, je me trouve avec quelque chose que je n'ai pas aimé, et puis je colle le papier par-dessus et je redessine par-dessus. C'est-à-dire, il y a ce double usage, double explication de ces déchirures.
De toute la série, pour vous, quand vous passez par exemple au collage de carton par rapport à ces grandes œuvres papier, c'est une récréation, c'est différent?
L'engagement est moindre. C'est-à-dire,
il faut quand même,
pour ne pas partir dans tous les sens.
Vous en avez combien des grandes œuvres sur papier comme ça?
J'en ai fait toujours un peu dans le temps. Mais là, la dernière série qui a commencé en 99, là, ce format-là de 2,25 m, j'en ai fait 5.
5.
C'est pas beaucoup.
Vu l'œuvre en question, c'est déjà énorme.
On ne peut pas faire très souvent ça. C'est-à-dire, j'aimerais bien, et puis je vous répète, c'est un réel plaisir, mais c'est un engagement de concentration. Je ne veux pas dire que c'est psychiquement épuisant, mais on peut toujours arrêter quand on se lasse. Puis il y a des dessins comme ça, mais il y a toujours un qui est en route.
Ah, vous en avez toujours un.
Entre les peintures, les collages, ça,
vous avez toujours une grande œuvre papier en cours.
Et puis, bon, j'observe, j'essaye. Je dis bien, j'essaye de ne pas me trop répéter parce que je suis un peu prisonnier de ce trait, de cette figure, de plein de choses, plein d'éthiques qui sont nécessaires dans tout le travail. Et j'essaye de composer. Ils se ressemblent, mais ils sont différents quand même. J'espère.
Une éternelle remise en question, toujours des...
Et puis, vous savez, avec l'expérience, j'aime pas dire avec l'âge, mais bon, on a quand même, au moins moi, j'essaye d'être très critique avec moi-même. Et j'essaye de ne pas sortir, de ne pas considérer les dessins ni les peintures comme tout est bon, tout est signature, non. Avec le temps, vraiment, j'essaye d'être toujours au maximum de mes possibilités. Quand je faisais certains dessins, certaines peintures, quand je regarde qui sont faites il y a 20 ans ou 25 ans, je dis comment j'ai pu faire ça. Mais j'étais toujours engagé au maximum dans un moment donné. C'est-à-dire, c'était comme ça parce que j'ai considéré que je suis au maximum
de mon
savoir-faire, de mon imaginaire et tout ça. Et là, avec des dessins et des peintures, parce que je les mets à égalité, avec un léger avantage pour les dessins, je regarde bien, bien, bien pour que, pour le moment, je sois plus ou moins satisfait de ce que j'ai fait. Mais il y a ce fameux doute, et je pense que ça plane derrière votre tête. Et il faut l'avoir, ce doute-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vous détruise, mais qu'il provoque cette mise et remise en question.
C'est le signe des grands artistes, cette remise en question, cette quête continuelle.
Vous savez, on peut s'installer dans une sorte de confort, de ce même savoir-faire, de produire des choses qui sont toutes d'un certain niveau, mais moi j'ai toujours cette idée-là, et avec le temps ça ne s'arrange pas, parce que quand même, et surtout en peinture, d'être... Ce que je répète tout le temps, faire plus avec moins. C'était la fameuse phrase de Miss van der Rohe, la grande architecte de Bauhaus. Ça fait beaucoup de mal à l'architecture par la suite, mais bon, à un moment donné, c'était... Mais dans la peinture, c'est une tendance que j'ai, c'est un effort que je fais, parce que, comme je dis, nous venons de cette partie du monde qui est Europe centrale, Europe de l'Est. On a toujours beaucoup trop à raconter, on a beaucoup trop dans la tête et dans le ventre. Et on a cette tendance de charger, de surcharger, d'être le plus expressif, expressionniste. C'est quand même assez bizarre que l'expressionnisme n'a jamais existé en France. Et juste à côté, en Allemagne, ça quand même... fait des beaux jours de la peinture. Mais bon, c'est des mentalités. C'est des... Et quand je vois les commentaires des gens qui regardent mes tableaux, tout ça, il y a notamment avec cette partie de mes activités de peintre, surtout avec les grands paysages que j'ai faits, sur le thème d'incendie, de feu, de destruction, tout ça, où il n'y a presque rien, bah, généralement, ils préfèrent ça. Mais ça ne m'empêche pas de faire autre chose, parce que, vous savez, moi, j'ai toujours, je ne sais pas, c'était comme ça, je n'ai jamais fait des compromis, je n'ai jamais fait ni des dessins, ni des peintures sur commande, parce que ça plaît. J'ai toujours eu une sorte de réflexe. Quand ça commençait à plaire, notamment cette série de chiens que j'ai faite.
Oui, ouais. Ça doit être très difficile pour le grand artiste, de résister au regard des autres, de ce qui leur plaît.
Il faut être très égoïste et pour quand même ne pas tomber dans le panneau du goût des autres. C'est-à-dire, moi, jusqu'à maintenant, j'ai quand même ce réflexe de m'arrêter à temps, c'est-à-dire au moment où je sentais que ça pourrait passer à une sorte de routine,
ou d'enfermement.
De se laisser faire, d'enfermement sur un thème. Et j'ai toujours, je ne me vante pas, mais c'est quand même quelque chose de très important de ne pas tomber dans la répétition et dans le savoir-faire sans aucune... Je parle toujours de cette responsabilité par rapport à soi d'abord et par rapport aux autres qui regardent par la suite.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil sur les autres exposants, sur les autres œuvres. Qu'est-ce que vous sentez du dessin? Alors on va dire est-ce que vous avez découvert d'abord des œuvres ou des artistes?
Non, je n'ai pas découvert grand-chose. Bon, j'ai regardé assez rapidement qu'il fallait m'occuper de moi-même. Non, je pense que la manifestation est très très importante. Parce qu'on a quand même un peu mis dessin sur le voie de garage, notamment pour considérer l'enseignement. Et cette manifestation-là prouve que le dessin existe. Et il existe bien, avec une richesse énorme, et que c'est là où ça se passe. Moi, je pense que même dans les nouvelles technologies dont on parle beaucoup, qui sont introduites dans les arts plastiques,
dans les arts numériques,
il faut quand même être conscient que le dessin, il est la base de tout ça.
Et qui restera.
C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ni enterrer, ni prendre en considération, parce que c'est vraiment l'alphabet de toute créativité. Comme disait Ingres, c'est l'opportunité de l'art, et tout ça, la peinture.
Quelle est votre actualité prochaine, Vladimir Velikovic? Quels sont les grands rendez-vous en dehors du Salon du Dessin? Je précise que tout ce que l'on voit ici pendant 4 jours, qui est exposé par la galerie Samantha Selem, est visible à la galerie même,
pas
dans
tout.
Une exposition.
L'espace s'y prête pas. J'aimerais bien, mais bon. Il y a une exposition qui
est... de vos dessins récents.
Oui.
Jusqu'au 17 avril.
17 avril, on retourne un peu dans le proche passé. Il y a une exposition qui est en cours jusqu'au fin mai, qui est au musée Rétif à Vence. Et c'est une exposition de 3 artistes, dont je suis un de 3, et qui est un hommage à Marais.
Oui.
Marais, qui est avec Maybridge,
ils sont exactement contemporains, ils sont nés
la même année, ils sont morts de la même année, et qui ont quand même contribué à développer cette manière de développer le mouvement. Ils sont différents, mais ils ont travaillé dans la même direction. Bon, ça c'est une exposition Avance au musée Rétif. Là, on a ces 2 expositions sur le dessin. Après, j'aurai une exposition dans un centre d'art à Aizine, qui est près de Bordeaux. Et après, j'ai une exposition qui, pour moi, est importante, qui me tient à cœur, qui est quand même Montélimar, dans ce qu'on appelle le musée éphémère, et qui est... C'est un lieu qui est très très beau, qui est une ancienne caserne transformée en musée, en galerie, avec une dizaine de salles et ça va commencer le 11 juin jusqu'à fin septembre. Et là, je présenterai ma peinture surtout. La peinture, il y aura quelques dessins juste pour s'appuyer.
Quelques grands formats, justement?
Non, je ne pense pas. Peut-être
c'est un peu tôt, là, pour en parler.
Non, c'est une période qui couvre depuis 68.
C'est une grande rétrospective.
Peinture depuis que je suis à Paris. Parce que, bon, j'avais l'idée de faire une rétrospective, mais vu l'espace et vu les complexité d'amener les tableaux, parce que mes premiers tableaux ils sont surtout à Belgrade avec des demandes au musée. Déjà on a du mal à obtenir, à part Beaubourg qui a réagi tout de suite, mais il faut que je le dise, on a depuis 2 mois et demi on n'arrive pas à avoir la réponse sur le prêt de 2 tableaux qui sont au musée de Lyon et au musée de Marseille. C'est vraiment assez agaçant comme comportement de ces responsables. Et il faut que je le dise parce que vraiment, c'est inacceptable.
Une actualité très riche, hein,
quand même. Oui, il y a pire. Mais là, ça engage pas mal d'efforts de la part des organisateurs et ça va être ma plus grande exposition après celle que j'ai faite à l'Arc, au musée d'art moderne de la ville de Paris dans les années 70.
Alors, on donne rendez-vous à tous les amateurs de votre peinture à ceux qui veulent venir la découvrir parce que ça sera un moment assez unique. Là.
Ça va être aussi une possibilité que je me découvre moi-même à moi-même. Parce que certains tableaux, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé, je n'avais pas l'occasion de les voir.
Il faut les retrouver.
C'est assez dangereux ce genre d'exposition qui peuvent quand même
poser un regard,
vous faire du bien. Ou faire du mal aussi, parce que souvent les gens disent que les rétrospectives, dans certains cas, ne servent pas à l'artiste. Bon, moi je crois qu'au fil de temps, j'ai quand même fait une sorte de, comme je dis toujours, d'évolution dans la continuité. On verra.
Merci Vladimir Velikovic de nous avoir reçus sur le salon et de nous avoir parlé de votre passion du dessin, de ce besoin viscéral que vous avez de toujours vous exprimer par ce moyen.
Écoutez, moi je pense que j'étais plus ou moins clair, mais sachez bien que ce qu'on a dit au départ, que le dessin pour moi c'est vital.
C'est vital, voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.